petites chaussures du rocher. Aussi longtemps que l'on a besoin de semelles et de rochers pour escalader, on ne sait rien de cet art. Le véritable grimpeur n'a besoin ni d'artifice, ni même de rochers. Le vieillard sembla prendre devant lui des prises imaginaires, puis enchaîna une suite de gestes merveilleusement précis. Chi-Chang crut entendre le choc à peine marqué de chaussures inexistantes contre un rocher immatériel. Puis il vit Kang Ying se dresser sur le sommet de l'aiguille. Il eut alors la certitude d'avoir été le témoin de la suprême manifestation d'un art où il avait passionnément voulu briller. Il passa 9 années dans la montagne avec le vieil ermite. À quelle discipline se soumit-il pendant ces années? Nul ne le sut jamais. Quand il redescendit vers son village et revint chez lui, tous furent étonnés des changements qui s'étaient effectués en lui. Il n'avait plus l'air résolu et arrogant d'autrefois. Son visage était de bois, inexpressif, comme celui d'un niais. Son vieux maître Wei Fei sut qu'il était de retour et vint le voir. Au premier regard, il comprit. Maintenant, je le vois. Tu es devenu un grand grimpeur et je suis désormais indigne de m'accorder avec toi. En entendant Wei Fei parler ainsi, les habitants de la province accueillirent Chi-Chang comme le meilleur alpiniste du pays. Et ils attendirent avec impatience les exploits qui confirmeraient sa maîtrise. Mais Chi-Chang ne fit rien pour satisfaire leur attente. Il ne retourna plus vers les parois qu'autrefois il fréquentait. Il n'avait même pas rapporté les chaussons d'escalade qu'il avait emportées 9 ans plus tôt, en disant qu'ils seraient les instruments de sa gloire. Et à ceux qui le pressaient de s'expliquer, il répondait sur un ton calme. Le stade ultime de la parole est le silence. Le stade ultime de l'escalade est de ne pas escalader. Les plus subtils comprenaient ce qu'il voulait dire et l'admiraient. Beaucoup, trompés par son visage inexpressif, le prenait pour un homme un peu simple et repartait sans comprendre pourquoi il jouissait d'une telle notoriété. Toutes sortes d'histoires se mirent à circuler à son sujet. Poussés par la jalousie, des gens superstitieux ou prêts à utiliser la superstition des autres racontèrent que Chi-Chang avait appris sur la montagne Ho tous les arts infernaux et que maintenant même les oiseaux migrateurs évitaient de survoler son toit. Les grimpeurs, convaincus au contraire de la suprême sagesse et de l'habileté sans égale de Chi-Chang, dirent qu'aucun mauvais esprit ne hantait sa demeure. C'était, ajoutait-il, le dieu des grimpeurs qui venait visiter l'âme du maître et s'entretenir avec lui des mérites des anciens alpinistes légendaires. Chi-Chang ne prêtait aucune attention à ce que l'on racontait. Il vieillissait doucement. Son visage avait perdu toute expression. Aucune force extérieure ne pouvait plus troubler sa parfaite impassibilité. Il était si bien accordé aux lois secrètes de l'univers, si éloigné des incertitudes et des contradictions apparentes, qu'au soir de sa vie, il ne faisait plus aucune différence entre « je » et « il ». Entre ceci ou cela. La multiplicité des impressions sensorielles était pour lui effacée. Son œil aurait aussi bien pu être une oreille, son oreille un nez, son nez une bouche. 40 années après son retour de la montagne Ho, Chi Chong quitta paisiblement ce monde, comme une fumée qui se dissipe dans le ciel. Au cours de ces années, il n'avait pas une seule fois fait allusion à l'art de l'escalade, n'avait pas touché un rocher. On raconte que peu avant sa mort, il rendit visite à un ami grimpeur qui habitait une riche demeure. En entrant chez lui, apercevant dans le corridor les chaussures de montagne de son hôte, il lui demanda « Quelles curieuses chaussures! À quoi peuvent-elles servir ?» L'ami, stupéfait, vit que Chi Chong ne plaisantait pas. Il se tourna vers le maître et ne put que lui dire d'une voix tremblante « Il faut vraiment que tu sois le plus grand maître de tous les temps pour avoir oublié quels sont les instruments de l'escalade. » On dit que dans les jours qui suivirent, les peintres de la province jetèrent leurs pinceaux et que les artisans eurent honte d'être vus avec leurs outils. Voilà l'histoire de Chi Chong qui voulait être le meilleur grimpeur du monde, conclut Tronc Feuillu. Vous en tirerez ce que vous voudrez, mais avant que nous arrivions à Chamonix, laissez-moi ajouter ceci. Les alpinistes de vos montagnes ont souvent tenté de définir l'escalade. Ils ont parlé de sport, de drogue, de moyens d'oublier, de fuite, de religion, de philosophie, d'éthique ou de morale. Certains qui ont un peu mieux compris ont évoqué un art de vivre. La vérité est à la fois en chacun de ces mots et hors d'eux. Placez-les sur une circonférence. L'alpinisme doit être au centre. Il appartient à chacun de l'y placer, ou plutôt, il appartient à chacun d'y placer son propre alpinisme. Oui, chaque grimpeur à lui seul doit viser le centre et le faire en oubliant le centre. Comme on dit dans votre langue, ceci est aussi sûr que je m'appelle. Il s'est tourné vers moi avec le grand sourire de quelqu'un qui va jouer un bon tour. Aussi sûr que vous m'appelez Tronc Feuillu. Je n'ai jamais su son véritable nom.